Merci, bonjour à tous, merci de votre accueil. C'est une joie pour moi d'être avec vous depuis vendredi soir pour vos pasteurs et puis hier pour l'équipe et ensuite une partie de la communauté hier soir. Donc je commence à vous connaître, mais finalement, il y a quelque chose qui se passe qui fait que même si on ne s'est jamais vu pour la plupart, avec la plupart d'entre nous, eh bien quelque chose fait que c'est comme si on s'était toujours connu par la présence de Dieu qui nous unit, l'Esprit de Dieu. Hein, on a chacun le même accès auprès de Dieu dans un même esprit. Mais plus encore, l'Église, c'est large. Hein, c'est dans cette communauté qu'est l'Église au sens large, il y a parfois des ADN particuliers. Il y a des traits de famille caractéristiques qui font qu'on est plus proches, finalement, les uns des autres. Et c'est ce que je ressens avec vous, à travers ce que Dieu a placé au milieu de vous, en termes de vision, en termes de caractéristiques, en termes de valeurs et de fonctionnement. Alors voilà, du coup, je me sens vraiment à la maison et je m'en réjouis. Et c'est une joie aussi de savoir que vous êtes en marche pour rejoindre notre famille d'église. Et je crois que c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas quelque chose, c'est pas un calcul humain, c'est pas juste une bonne idée. C'est la façon dont Dieu rassemble les siens avec le tact qui lui appartient, avec sa stratégie qui nous dépasse. Hein. Et on est heureux en tant que famille du réseau Nouvelles Connexions eh bien de voir comme ça de nouvelles connexions se produire. Parfois, certaines on les attend depuis longtemps, d'autres sont imprévues, inattendues, et puis finalement ça se fait. Et ainsi, on voit que Dieu nous conduit au-delà de notre propre calcul et de notre propre sagesse. C'est bon d'appartenir à ce Dieu qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. C'est le Dieu qui nous comble. Hein. Sa bénédiction nous comble. C'est une mesure bien tassée, bien secouée et qui déborde. J'espère que ce matin, vous ressentez ce débordement, cette satiété dans la présence de Dieu. C'est le signe de sa grâce et c'est le signe que nos cœurs sont ouverts à ce qu'il veut nous accorder. J'ai introduit hier soir ce week-end ensemble à partir d'un verset que je voudrais reprendre ce matin avec vous. Le verset de Romains 1, verset 5. On va pas lire ce qui précède ni ce qui suit, on va se concentrer sur ce verset 5, parce que pour moi, il contient une déclaration d'une force inouïe. D'un verset que tout le monde a lu une fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois, hein, selon le rythme de lecture biblique de chacun, selon le temps d'engagement et de marche avec le Seigneur de chacun. Et c'est parfois comme ça, sur des textes qu'on connaît bien, que le Seigneur met un coup de projecteur particulier. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne depuis quelque temps. Ces bénédictions contenues dans ce verset, eh bien, me sont apparues de manière encore plus claire et je voudrais en partager quelques-unes avec vous. Romains chapitre 1, le verset 5, il est dit « C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous faites aussi partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. Amen. » Quand on lit ça, au premier abord, on se dit « ça c'est Paul, il parle pour lui ». L'apôtre, l'apostolat, ben évidemment, c'est sa caractéristique. Certains vont dire il parle pour son équipe. Nous, c'est l'équipe qui l'entoure. Et moi, je voudrais lire cela d'une manière différente aujourd'hui pour que nous, en tant qu'Église, nous puissions nous approprier cette parole-là. Pas simplement en tant qu'Église au sens large, mais pour vous aussi, ici, en tant qu'Église, dans cette région, et pour la famille d'Église à laquelle nous appartenons, en tout cas vers laquelle nous sommes en marche, pour pouvoir dire comme une déclaration de foi pour nous, pour notre identité, notre appel, notre mission, mais face au monde aussi invisible qui voudrait parfois contenir, retenir le déploiement de l'Église, qui voudrait en freiner la marche au travers des uns et des autres, qui sont parfois confrontés à des difficultés, des tentations, des problèmes, mais sur un plan collectif. Le projet de l'ennemi, c'est de bloquer la marche de l'Église. On sait qu'il ne va pas y arriver. De toute façon, il est déjà vaincu, mais quand même, il l'essaye encore. Et quand on prend conscience de notre identité en tant qu'Église, du potentiel que Dieu a mis en nous, pas de ce dont nous sommes capables par nos propres forces, parce que c'est que par grâce, ça a été dit et redit tout ce matin, et on va encore insister là-dessus. Eh bien, quand il y a une conscience de notre appel qui grandit en tant qu'Église, comme en tant qu'individu, tout d'un coup, il y a une mesure de liberté, il y a une mesure d'aisance qui nous est donnée et qui nous permet d'avancer, non pas dans la légèreté, non pas dans l'insouciance, mais avec confiance, avec enthousiasme et avec joie, comme ça a été évoqué aussi ce matin. Eh bien, ce verset fait partie de notre identité. Il fait partie de votre identité. Il appartient à l'Église, mais ce matin, on va se l'approprier, nous, en tant que communauté, et on va le dire ensemble. On ne va pas juste le lire, on va le dire, on va le proclamer. Pour le moment, ce n'est peut-être pas très clair ce qu'il contient comme bénédiction. Pas de problème. On va avancer et on va essayer de l'éclairer. On va surtout prier pour que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit à chacun. Ce matin, je suis pas venu enseigner. Je suis venu communiquer ce que j'ai reçu de la part de Dieu, en partie, pour que l'Esprit de Dieu vous le communique. Et nous sommes ensemble connectés au Saint-Esprit lui-même. C'est ça l'avantage des enseignants dans l'Église. Et pas seulement dans l'Église, mais dans l'Église pour ce matin. C'est qu'en fait, je ne suis pas devant des gens qui apprennent. Je suis devant des gens qui ont le même esprit que moi. Et nous partageons ensemble même la même révélation. Et mon rôle, c'est juste de nous connecter ensemble à la même source, l'Esprit de Dieu, et c'est lui qui nous enseigne ensemble. C'est pourquoi ce matin, on va, j'espère, vivre un temps de révélation, comme chaque fois que nous sommes devant la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui illumine les yeux de notre esprit. Amen. Alors, pour prendre position face à tout ce qui pourrait nous déstabiliser, nous inquiéter, on va dire ensemble ce verset. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Amen. Allez, on va le redire, ça fait trop plaisir ça. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat en vue de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans toutes les nations. C'est un peu plus long ça, donc on va le garder pour la fin. Ce verset est d'une richesse extraordinaire. Hier, nous avons vu ce que la Bible entend par apostolat. Ce que nous comprenons en tant que réseau d'église par la dimension apostolique. Je ne vais pas y revenir très longuement ce matin, même si, bien sûr, on va quand même le rappeler quelques grandes lignes. On a vu combien c'était central pour l'église, cette dimension d'autorité qui repose dans la dimension apostolique, pas simplement de quelques individus, mais de l'église. Et ici, ce matin, quand je dis « nous avons reçu l'apostolat », on parle en tant qu'église. C'est cette mission. Un apôtre, c'est quelqu'un qui est missionné, qui est envoyé. Qui est envoyé pour établir le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu grandir. Mais ici, Paul ne commence pas en disant « Hey, nous avons reçu l'apostolat ». Il y a un ordre dans cette confession. Il commence par dire « Nous avons reçu la grâce et l'apostolat ». Et au-delà de tout ce que nous avons déjà dit sur l'apostolat, de tout ce qu'on peut connaître, comprendre, de l'apostolat, je voudrais ramener à ce qui me paraît être l'essentiel du ministère apostolique, de l'Église comme des individus, qui est cette compréhension, cette révélation de la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce, dit Paul, et à plusieurs reprises, quand il parle de son ministère, il va bien sûr faire état de ce que nous comprenons comme étant l'apostolat, l'implantation d'Église, la diffusion du royaume de Dieu, dans toutes les nations, la structure de l'Église, l'enseignement, la discipline parfois, l'autorité spirituelle, le combat spirituel, tout ça, ça fait partie de l'apostolat. Mais quand vous lisez la vie de l'apôtre Paul, très souvent, la plupart du temps, c'est relié à cette révélation qu'il a de Christ. Il aura le culot de dire à un moment donné aux Éphésiens, en lisant ces lignes, vous pouvez imaginer la révélation que j'ai de Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce verset, dans le chapitre 3 des Éphésiens. Alors peut-être que vous dites, ah oui, ça sent un peu la vanité, ou un peu comme s'il roulait un peu les mécaniques. Non. C'est juste une affirmation réelle. Ce qui constitue les apôtres, Pierre, les autres, et Paul, et la dimension apostolique de l'Église, c'est d'abord la révélation de Christ comme l'incarnation de la grâce de Dieu. Cette grâce, ce matin, on l'a chantée, on l'a célébrée. Vous savez que ce sera le thème de notre louange éternelle. Je ne dis pas que dans l'éternité, on va passer nos temps dans notre éternité, notre temps, le temps n'existera plus, dans l'éternité, dans un culte permanent, ou une louange permanente telle qu'on le vit le dimanche. Non, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais toute notre vie sera une louange rendue à Dieu pour la grâce dont nous avons été l'objet en Jésus-Christ. Et quand Paul dit « nous avons reçu la grâce », ce n'est pas une formule théologique vide. C'est une affirmation qui est au cœur de notre expérience et qui doit aujourd'hui être encore renouvelée et éclairée. Vous savez que ce n'est pas si facile de recevoir la grâce. Vous savez que c'est même impossible de recevoir la grâce sans l'intervention de Dieu, sans le miracle de Dieu dans notre volonté, dans notre cœur, dans notre intelligence, qui nous fait nous ouvrir à son amour et à sa présence. Il faut donc que quelque chose se passe d'ordre du miraculeux pour pouvoir dire nous avons reçu la grâce. Parce que tout en nous, à cause des ténèbres, à cause du péché, à cause du péché originel, nous rend imperméables à la présence de Dieu. Et surtout, à la présence aimante de Dieu. La grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu inconditionnel. Une formule, mais plus qu'une formule, c'est le cœur de Dieu. C'est le fait que Dieu vibre d'amour pour nous. C'est que Dieu a des transports d'allégresse pour nous. Pas parce que nous sommes arrivés à un degré de sainteté, de maturité qui fait que ah, ça y est, on peut commencer à voir sa faveur. Non. La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés, on le dit souvent, c'est une formule, ça aussi, mais c'est tellement vrai. Il nous a aimés le premier. Ça veut dire qu'avant même que nous nous tournions vers lui, avant même que nous n'ayons le moindre élan de cœur vers lui, il nous a aimés. Il nous a aimés quand nous étions dans les ténèbres, dans la révolte, dans l'idolâtrie, dans tout ce qui fait l'abomination à ses yeux. Et pourtant, il nous a aimés. Parce que nous sommes des créatures créées à l'image de Dieu. Et ce n'est pas parce que le péché a perverti, a touché nos vies, que Dieu s'est détourné. C'est ça ce que j'aime dans le message du royaume de Dieu, c'est que Dieu n'a pas fait une croix sur l'humanité. Il n'a pas dit, franchement, il n'y a plus rien à en tirer. Avec tout ce que je leur ai donné, avec tout ce que j'ai fait pour eux, avec tout ce que j'ai créé pour eux, voilà comment ils me remercient. Parfois, il y a des parents comme ça. Qui, devant la dureté des enfants, les mauvaises réactions, disent « Ah, franchement, après tout ce que j'ai fait pour eux, quelle reconnaissance !» Il y a même des parents qui ajoutent, qui osent ajouter « Merci, merci beaucoup, Laurence. » Qui osent ajouter, ça c'est entre nous, mais ça ne se passe pas ici. Mais moi, je l'ai entendu, ça. Il vaut mieux lever des enfants que des cochons que des enfants. Ça, c'est le cœur humain. Même des parents. Oh, bien sûr, on est tous des parents parfaits, n'est-ce pas? Et quand nos enfants nous résistent, on se dit, mais quand même, après tout ce que j'ai fait pour toi, et voilà, et hop, ça revient. Eh bien, le cœur de Dieu, pardon, en tant que père, c'est pas ça. Et c'est là où il nous dépasse, même nous, parents, où nous croyons être au maximum de l'amour et de la compassion pour nos enfants. En Dieu, il y a quelque chose de plus, il y a une largeur, une grandeur. C'est que son amour ne tarit pas, il ne diminue pas, il ne varie pas en fonction de la réponse qu'il a de la part de sa créature. Son amour ne dépend ni des circonstances, ni de la façon dont nous répondons à son amour. Son amour existe de manière éternelle, pleine, entière, inconditionnelle. Avant notre conversion, c'est pour ça qu'il nous attire à lui, au moment de notre conversion et tout au long de notre marche. Le problème des chrétiens, c'est que nous avons le sentiment parfois que nous avons été sauvés gratuitement, mais qu'ensuite, il faut passer sa vie à rembourser. Et j'ai même entendu des gens dire « Ah, les dons de Dieu sont gratuits, mais l'entretien coûte cher. » J'entends aussi les chrétiens dire « Ah, le prix à payer, le prix à payer. » Et là, plus personne ne rigole parce que tout le monde l'a dit, ça. N'est-ce pas? Il y a un prix à payer, il y a un prix à payer. Alors, on sait ce qu'on veut dire quand on parle du prix à payer. Mais il y a parfois des expressions malheureuses. Et quand on mesure le prix que le Christ, lui, a payé, comment est-ce qu'on peut comparer les sacrifices que nous faisons? Alors, on s'empresse de dire un sacrifice d'amour, oui. Enfin, quand même, quelque part, ça fait mal à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut comparer ce que nous faisons pour lui, l'obéissance que nous lui rendons, l'amour que nous lui rendons, les engagements que nous prenons? Comment est-ce qu'on peut le comparer à un prix à payer? Mais c'est une insolence. C'est insupportable. Pour moi, en tout cas. Pour Dieu, peut-être aussi. Mais Dieu est plus patient que moi, alors ça va, vous avez de la chance. Ça prouve que notre compréhension de la grâce est polluée encore par l'héritage du péché. Et par tout ce qui fait en nous cette dimension du légalisme. Un légalisme qu'on qualifie de religieux, mais qui est lié au péché originel. Et on peut être légaliste sans être croyant. On peut être légaliste dès qu'on place des principes au-dessus des personnes. Dès qu'on impose sa volonté, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit laïque ou religieux. Dès qu'on commence à juger sur l'apparence, dès qu'on commence à chercher par soi-même à atteindre un degré de perfection, y compris spirituel. Et ça, c'est enraciné en nous. Alors ce matin, je commence par une mauvaise nouvelle. C'est qu'on a besoin, enfin c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle, c'est qu'on a besoin de redécouvrir et de recevoir à nouveau la grâce de Dieu. Quand Paul dit « nous avons reçu », ce n'est pas quelque chose qui date de simplement du jour où il a découvert le Seigneur, c'est quelque chose qui est au quotidien. Et le défi pour moi, et ça c'est au fondement de la dimension apostolique, le défi pour moi aujourd'hui, c'est que les croyants que nous sommes, croyants que je suis, redécouvrent sans cesse la grâce de Dieu dans sa dimension libératrice, dans sa dimension de... Je n'ai pas de mots pour ça, mais vous l'avez compris. Et que nous en découvrions l'abondance. C'est le même Paul qui dira dans l'Épître aux Romains, toujours un peu plus loin, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice. Il y a une abondance du cœur de Dieu, il y a une abondance de l'amour de Dieu, il y a une abondance de la passion de Dieu que nous avons besoin de recevoir, et qui doit nous émouvoir. Et ma question, c'est depuis quand tu n'as plus été ému ou peut-être même pleuré devant simplement le témoignage de l'amour de Dieu, devant les clins d'œil de Dieu, devant l'affection de Dieu? La Bible dit que Dieu a des transports d'allégresse. Vous savez tout ce que c'est ça, les parents ou les tontons, les tatis, les papis, mais vous savez ce que c'est un transport d'allégresse? Un enfant, un petit enfant, ça soulève des élans d'affection, un moment d'amour comme ça. Mais voilà, Dieu c'est comme ça. Dieu a un vibrant amour pour nous, pour toi. Et cet amour-là ne dépend pas du nombre de chapitres de la Bible que tu as lu ce matin. Ça en rassure plus d'un parce que peut-être vous n'en avez lu aucun. Mais c'est fait pour ça, justement. Ça ne dépend pas du temps de prière que vous avez mené. Non. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire la Bible, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu va nous aimer plus. Parce que si vous priez ou vous lisez la Bible pour avoir bonne conscience, et pour être en règle avec Dieu, c'est qu'en fait, ce n'est pas une relation d'amour qui s'établit avec Dieu, c'est une relation de devoir et d'obligation. Et nous continuons à faire des œuvres pour attirer la faveur de Dieu. Et si vous regardez votre vie avec attention, vous allez découvrir avec surprise, peut-être avec horreur, le nombre de choses que nous faisons un peu dans un esprit d'œuvre et d'obligation. La grâce de Dieu suscite en nous l'amour pour Dieu et tout ce que nous faisons est motivé par l'amour. Tout ce que nous vivons dans l'Église, dans le ministère, dans nos engagements, qui n'est pas un élan d'amour, qui n'est pas motivé par l'amour, mais par le devoir, c'est la marque du péché, c'est la marque de la religion, c'est la marque du légalisme. Dieu ne le rejette pas, parce qu'il continue de nous aimer, même quand on est religieux. Ouf! Mais Dieu veut nous amener à une autre relation avec nous. Cette relation, elle est fondée sur la grâce. Et c'est le message de Paul, c'est le message de Pierre. J'ai beaucoup d'amis qui me disent, la grâce, oui, mais pas trop. Attention, si on ne parle que de la grâce, comment les gens vont-ils se sanctifier? Comment les gens vont-ils obéir? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu maintenir un peu de pression pour gagner un peu plus d'enthousiasme, mais de motivation, de mobilisation? On n'aime pas la grâce, on ne supporte pas la grâce. Charnellement, nous ne supportons pas la grâce. Pourtant, il y a une puissance dans la grâce qui est au-delà de tout. La Bible dit, c'est Paul qui dit ça à Tite, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Le mot manifesté ici, en grec, c'est le même mot qui décrit l'avènement en gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que le Seigneur est apparu, pas simplement dans sa deuxième venue, quand il reviendra, mais quand il est apparu sur la terre et quand il a été l'incarnation de la grâce de Dieu auprès de ceux qui étaient bas tombés, auprès de ceux qui étaient repoussés, rejetés par les systèmes religieux, eh bien, ça a été une révélation, une apparition, une manifestation de la gloire de Dieu. Et cette grâce, dit Paul, elle nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer et à vivre. Renoncer à l'impiété, renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu et à vivre. Dans ce monde, ça, il faut bien le préciser, la grâce ne nous déconnecte pas du monde, elle nous connecte avec le monde. On verra comment. D'une manière pour Dieu, de manière juste et de manière pieuse. Il y a une puissance dans la grâce de libération, il y a une puissance de sanctification dans la grâce. Et pas dans le devoir, pas dans le légalisme. Parce qu'elle nous enseigne. Quand je découvre l'amour et la grâce de Dieu pour moi, ça met mon logiciel à jour. Ça fait un reset. Toute ma vie s'aligne sur ce que je découvre de qui est Dieu. Et je peux renoncer à ce qui ne plaît pas à Dieu, non pas par obligation, non pas par sacrifice, mais parce que simplement quelque chose fait que non, ça s'aligne plus sur la volonté de Dieu. C'est pas juste. Et donc je renonce. C'est des renoncements joyeux. La repentance, c'est un moment de tristesse dans un premier temps, parce qu'on découvre que par rapport à l'amour de Dieu, oh là là. Qu'est-ce qu'on a été loin? Qu'est-ce qu'on a été rebelle? Qu'est-ce qu'on a été... Alors on pleure, oui, bien sûr. Mais on change de mentalité. On change de... Notre intelligence est renouvelée. Et on renonce à ce qui ne plaît pas à Dieu. Pas parce que ça nous coûte. Pas en disant, ben tant pis. Vous savez, ces vieux cantiques qui disaient, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Oh, mais quelle honte! Ça veut dire que les plaisirs du monde, avant, c'était les plaisirs du monde. Allez, on dit, tant pis, ben on y renonce. Et maintenant, c'est la vie avec Dieu. Et il n'y a plus de plaisir dans la vie avec Dieu. Ah, attendez. Alors, bien sûr, oui, non, monsieur, c'est les plaisirs du monde. Mais si c'est les plaisirs du monde, est-ce que c'est vraiment du plaisir? Notre langage est complètement perverti. Dans la repentance, je renonce à ce qui faisait avant ma joie, mais c'était une fausse joie. C'est un faux plaisir. Alors ne dis pas que je renonce au plaisir du monde, on a de dire, tant pis. Hein. C'est un renoncement joyeux. Non, je veux plus de ça. Je n'en veux plus. Je veux plus du mensonge, je veux plus de l'adultère, je veux plus de l'impureté, je veux plus de l'idolâtrie. C'est pourri. Je supporte plus parce que ça ne plaît pas à Dieu. Et il met en moi, il inscrit dans mon cœur sa loi, sa volonté. Quand j'ai découvert ça, moi je suis né dans l'église. J'ai pris ma première fessée dans le hall de l'église. Ça aurait pu me dégoûter de l'église. Je suis fils de pasteur. Je suis arrière petit-fils de croyant et fils de pasteur. Donc j'ai vu l'église dans tout côté cour, côté jardin. Et j'ai grandi dans l'église en essayant de plaire à Dieu. J'ai levé ma main à tous les appels. Surtout quand on me faisait peur avec l'enfer. Et qu'on me racontait ces histoires où un tel jeune homme n'avait pas répondu à l'appel le jour de réunion et puis ensuite il est mort et est allé en enfer. Mais, quelle manipulation, mais quelle manipulation. Je ne dis pas que ce n'était pas sincère de la part de ceux qui disaient ça, mais quelle manipulation. Comment est-ce qu'on peut répondre à l'amour de Dieu par la peur de l'enfer? Par la crainte de quoi que ce soit. Je levais ma main, je tremblais, mais rien ne changeait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lever la main. À l'appel. Mais moi, ça n'a rien changé. Et j'étais toujours avec mes pensées impures, mon mal-être, mon malaise, mes révoltes, mes rébellions, au point de tout remettre en question. Sauf ce Dieu quand même de mes parents que je voyais vivre. Et je me disais quand même, il y a quelque chose de différent. Mais moi, j'étais incapable de vivre à la hauteur de ce que je croyais être les exigences de Dieu. Jusqu'au jour où quelque chose s'est ouvert en moi. Et j'ai découvert, j'ai reçu la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ce n'était plus moi qui devais, par mes efforts, changer. Mais j'ai compris ce principe de la grâce, c'est que Christ est mort pour nous. Et en lui, nous sommes morts au péché. C'est une substitution, mais c'est une réalité. Mort au péché, donc c'est tout ce qui m'accusait, tout ce qui m'inquiétait, tout ce qui m'amenait dans les ténèbres, tout ce qui déplaisait à Dieu, Christ l'avait porté à la croix. Mort en Christ et ressuscité en lui, une nouvelle vie. Et j'ai reçu la vie de Dieu. La grâce, c'est ça. C'est quand il vient inscrire sa loi dans nos cœurs. Et moi, je rêvais de ça. Je rêvais de pouvoir aimer, de pouvoir pardonner, de pouvoir vivre dans la justice, pas par la pression d'une loi, fût-elle religieuse, mais juste par un élan, par quelque chose de... C'est la vie. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça qui différencie la grâce de Dieu de la religion. Alors, je me souviens de ces premières semaines de ma conversion, j'avais 15, 16 ans. Et puis, je louais Dieu, ça. Puis, de temps en temps, ma mère me disait, « Alors, tu n'as pas quelques progrès à faire? Non, tu n'as pas quelques domaines pour lesquels il faut prier pour avancer ?» Et moi, je lui répondais, « Mais non, Christ a tout accompli. » Deux mondes qui s'affrontaient. La naïveté, la fraîcheur de la foi, de la réception de la grâce. Et puis, ma mère qui aurait voulu que j'aille un peu plus loin encore dans... Je ne disais pas de l'égalisme, mais bon, peut-être un peu. Ça, personne ne peut le créer. Ce que je dis là, pour vous, c'est peut-être des mots qui tombent à plat. Poum, poum, poum. Sauf quand le Saint-Esprit vient les rendre réels. Et c'est ça. La grâce nous oblige à laisser la place au Saint-Esprit. La religion, on collabore avec la volonté humaine, les œuvres, on en rajoute, on met la pression. Ça marche un temps, puis ça explose. La grâce, c'est de dire, voilà qui est Jésus. Et voilà ce qu'il peut faire dans ta vie. Lui. C'est son esprit. Il y a tellement d'exemples dans l'évangile qui illustrent la puissance de la grâce. Je pense à ce moment dans lequel Jésus est avec ses disciples en ville. Et puis, il y a une foule qui arrive là. Et puis, du sein de cette foule se détache un groupe d'hommes qui traînent littéralement une femme et la jette aux pieds de Jésus. Et ces gens disent, la loi nous dit qu'il faut lapider de telle femme, accusée d'adultère, et toi, que dis-tu? Là, on est devant la puissance de la religion. Alors bien sûr, là, on parle des pharisiens de l'époque, mais le légalisme évangélique, c'est la même nature. On aurait pu penser... On aurait souhaité, peut-être, que Jésus hurle avec les loups. Ah oui, bien sûr, la Bible dit que. Est-ce que c'est ça que Jésus fait? Jésus se tait. Il y a des silences qui sont de plomb. Il se tait. Juste une parole qu'on connaît bien, qui est devenue proverbiale, que le premier d'entre vous qui est sans péché jette. Que celui d'entre vous qui s'empêche jette la première pierre. Et là, quelque chose se passe. Une remise en question. Et les gens, ces gens religieux, partent, accusés dans leur conscience. Moi, je me dis qu'ils auraient pu saisir à ce moment-là l'amour de Jésus, comme la femme l'a saisi. Après, ils auraient pu changer de vie aussi. Mais eux, pour eux, à ce moment-là, c'est impossible. Tellement marqué, tellement imprégné, tellement formaté par leur légalisme, ils partent, ils fuient. Et Jésus se lève et dit à cette femme, « Tais-toi. Personne ne t'a-t-il condamné ? » La femme dit non. Et cette parole-là qui suit, moi, elle me bouleverse chaque fois. Jésus dit, va. Je ne te condamne pas non plus. Oui, c'est ça. L'évangélisation, c'est ça. Ce n'est pas sur un ton de condamnation. Des fois, on croit qu'on évangélise, on croit qu'on intercède pour le monde qui se perd. Mais on est sur un ton de condamnation, un ton de jugement, un ton de supériorité. Et on parle de ce monde qui se perd. Comme si on était au-dessus. Je te loue de ce que j'ai été retiré de la boue du péché. Oui, d'accord, mais ça ne te fait pas de toi quelqu'un de meilleur. Et j'ai dit, va et ne pêche plus. Et là, il se passe quelque chose dans le cœur de cette femme qui est de l'ordre de la puissance. C'est ça que je voudrais souligner, c'est la puissance de la grâce à ce moment-là. Ce n'est pas une parole qui la condamne en disant, surtout, ne pêche plus. Fais tous tes efforts pour ne plus pécher. Non, non, c'est l'amour de Jésus qui vient, l'Esprit de Dieu qui agit dans sa vie et qui lui donne à ce moment-là la force de renoncer à sa vie passée pour vivre pour Dieu et avec Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça notre mission en tant que... Personnellement, nous devons recevoir la grâce de Dieu, bien sûr, et nous devons témoigner de cette grâce. Et toutes les transformations, tous les changements sont du même ordre. On ne change pas sous la pression, ni du légalisme, ni du regard des autres, ni de la peur, ni de la crainte. Ces changements-là sont superficiels. Il y a un réel changement, une réelle sainteté qui vient quand il y a la révélation de la grâce. Et on a besoin de redécouvrir ça. Le monde évangélique, le monde charismatique a besoin de redécouvrir ça. L'Église et le monde croulent sous la puissance du légalisme et de la religion. Vous direz, moi religieux ? Ah non ! Hein ? Dès que nos opinions deviennent une source de division, de contestation, dès que on mesure les autres à notre échelle de valeur, dès qu'on cherche à imposer ce que l'on croit, dès qu'on juge sur l'apparence, finalement, dès qu'on prend le pouvoir sur l'autre, d'une manière ou d'une autre, moi j'ai été de cette race-là. Je ne suis pas fier, hein, mais la grâce de Dieu, je l'ai découverte au début de ma conversion, mais j'ai continué à marcher avec des principes. J'ai été un pasteur légaliste. J'ai mis l'Église sous pression. Oh, ce n'est pas une pression autoritariste. Enfin, un peu quand même. Et ça marchait. Il y avait un engagement, il y avait un feu, il y avait des progrès, il y avait une avancée. Jusqu'à ce que je réalise qu'en fait, tout ça, ça tenait en partie, pas seulement, parce qu'il y avait l'œuvre de Dieu quand même, mais c'était un mélange. Ça tenait en partie parce que j'étais là en train de mettre la pression dans l'Église. Alors, vous imaginez à la maison. Moi, ma femme en discutait, je dis non, ça c'est un principe. Alors, je parle pas n'importe lequel, hein, quoi qu'il en soit. Je marchais par principe. Ma vie était construite sur des principes. Il n'y avait pas de dialogue, non, c'est un principe. Point. Et toi comme moi, on obéit au principe. Je ne tenais pas compte de la situation, de la personne. C'était le principe qui pour moi était au-dessus de tout. Ça, c'est extrêmement religieux. Jésus n'a jamais venu envers ses semblables en disant « Voilà le principe. La Bible dit que, toi que dis-tu ? » Lui, il dit rien. L'esprit religieux se dit « Oui, oui, la Bible dit que. Ah oui. Ah non, mais la Bible dit que. Ah oui, mais la Bible... » Quand vous commencez à vous battre avec des versets bibliques, attention, que tous les témoins s'allument, là, l'esprit religieux s'en donne à cœur joie. Ah, c'est la Bible. D'accord. Si la Bible devient une occasion de ferrailler et de te battre, c'est plus la Bible. C'est l'esprit religieux. Non, mais pourtant c'est la Bible. Non, c'est l'esprit religieux. Non, c'est l'esprit religieux. Il faut arrêter avec ça. Si la Bible devient une occasion de contestation, de se justifier, de se battre, de polémique, c'est plus la Bible. Enfin, si, c'est toujours la Bible, mais c'est plus la parole de Dieu. C'est comme ça que le diable est venu près de Jésus. Il est écrit. Ah, ben alors quand on dit il est écrit, tout le monde dit oui. Tellement l'inspiration ne venait pas du Saint-Esprit. Hein. On est d'accord là-dessus. Jésus a répondu, il est écrit, oui. C'est peut-être la seule fois. Parce que là, il était en confrontation avec l'ennemi. Mais face à ceux qui étaient bâtombés, ceux qui étaient exclus, ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient conscients de leur péché, de leurs ténèbres. Ce n'est pas la loi qui l'a brandi. Ce n'est pas les exigences. Et ah, ben il était temps quand même hein, que tu viennes à moi, que tu te repentes. plus le temps que je t'attends, le fils prodigue. Le père, il dit pas, c'est maintenant que tu viens. Il était temps quand même, hein, parce que je commençais à m'impatienter. C'est ça le père du fils prodigue ? Et non, le père, il attend. L'amour de Dieu, c'est ça. La grâce de Dieu, c'est ça. C'est sa capacité à nous aimer et à attendre nos changements, nos prises de conscience, nos repentances, en les suscitant, bien sûr, parce que personne ne peut se repentir sans son esprit. Et quand on est là dans sa présence, il ne fait pas preuve d'impatience, il ne dit pas... Non. Il s'empresse de nous aimer, il s'empresse de pardonner, de nous réhabiliter et de nous transformer. Cette dimension de la grâce, elle nous change, elle nous transforme beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Moi, j'apprends toujours plus à vivre de la grâce de Dieu, parce que c'est bien de la recevoir, cette grâce, mais il se passe quelque chose de naturel, c'est que plus on reçoit, enfin, pour recevoir la grâce, c'est pas une œuvre, mais c'est un réflexe pour qu'elle continue de nous libérer, de nous amener dans une liberté de relation avec Dieu. Il faut aussi apprendre à faire grâce à son tour. Et la vie devient passionnante. Je découvre toujours plus les travers de mon caractère, de mon comportement qui m'empêchent de faire grâce. Non pas pour les cajoler, les entretenir, mais pour dire, ah non, Seigneur, aide-moi, pitié, pitié, rends-moi comme toi. Moi, il y avait des lieux dans lesquels j'étais imbuvable. Il y en avait beaucoup, hein. Mais le lieu auquel tout le monde peut s'identifier, c'est la voiture. Le code de la route, c'est le code de la route, mince. Tu tournes, tu mets ton clignotant, point, c'est tout, voilà. Pas d'excuses. Et ainsi de suite. Et j'étais arrivé à un degré de jugement, de colère, d'amertume, de ressentiment contre les mauvais conducteurs, par rapport à moi, qui me commençaient à me faire peur. Parce qu'au début, allez, on sourit, on rigole, on laisse passer. Et après, ça s'amplifie. Et après, ça devient un comportement, une deuxième nature. Et je m'entendais, aujourd'hui, on téléphone, vous savez, on téléphone en voiture, alors pas avec la, hein, d'accord, avec les Bluetooth, etc. Donc on parle. Et tout d'un coup, en discussion avec qui que ce soit, d'ailleurs, je commençais à me mettre en colère contre celui qui, devant moi, ne respectait pas le code de la route. Donc ça devenait intenable, même pour les autres. Et à côté de moi, ça devenait insupportable. Ma femme ne supportait pas. Et je commençais à me faire peur. Moi, jamais je changerai, jamais. C'est pas possible. Là, ce côté-là, j'ai aucun espoir. Et c'est un petit domaine, vous me direz. Oh, vraiment, ça, c'est pas ça. C'est là que Dieu a commencé à me faire prendre conscience que, heureusement que lui n'agissait pas à mon égard de cette façon-là. Chaque fois où je dépassais, où je transgressais le code, non pas de la route, mais sa volonté. Et que Dieu est un Dieu patient. Et il a commencé à me remplir de compassion pour ceux. Parce qu'en fait, on rencontre des gens, y compris sur la route, qui sont eux-mêmes dans tellement de drames, tellement de souffrances, tellement de solitude, tellement de pression, que s'ils oublient le clignotant, franchement. Vivant de la grâce de Dieu, vivant de la faveur de Dieu, je peux tolérer ça, pas en le supportant, mais en disant... On ne sait pas ce qui se passe derrière. On ne sait pas ce que cette vie cache. Alors, faisons grâce. Plutôt que de dire, hop ! Et ça a changé. Mais moi, ça m'a libéré. J'ai un poids qui est tombé. Alors, je raconte ça dans l'église. Et puis, bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que ça dure une semaine, deux semaines, un mois. Et puis... Mais j'ai vu le travail de Dieu dans ma vie, dans ce domaine-là. Il y en a eu d'autres, hein, bien plus profonds et bien plus importants. Mais quand même, pour moi, c'est... Et j'ai vu ce travail de Dieu. Et vous savez quoi, ça dure. Sauf il y a quelques temps où je commençais à m'autoriser quelques libertés et recommencer un peu à laisser la pression, l'impatience monter. Et puis, on s'aperçoit qu'on a toujours besoin de s'humilier devant Dieu, de renoncer à son orgueil, à sa prétention, et de continuer à se laisser remplir de l'amour de Dieu. Et du coup, eh bien, on respire mieux, on vit mieux. Et la grâce de Dieu coule. Plus tu fais grâce, plus plus tu te nourris de la grâce de Dieu. Jésus dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas. Comment ça? Dieu ne peut pas pardonner? Bon, je pense que Dieu pardonne de toute façon. Mais ce qui change, c'est que je ne peux plus recevoir le pardon de Dieu quand je ferme mon cœur au pardon des autres. Ce n'est peut-être pas que Dieu ne me pardonne plus. C'est que je ne suis plus dans cette relation fraîche, joyeuse avec Dieu. Où plus je reçois la grâce de Dieu, plus ma vie est rassasiée. La religion, c'est l'insatisfaction. Tu n'es jamais content de toi et tu n'es jamais content des autres. Voilà, ça, c'était mon type de leadership, moi. J'ai quand même une bonne relation avec tout le monde, quand même. Mais quand même, par moments, j'avais l'art de ne voir que ce qui n'allait pas. Que les manquements, les fautes, les fragiles. Voilà. Ça, c'était ma capacité, et j'en suis pas fier, hein, à ne voir pas voir que ça, mais voir aussi ça. Et puis à le pointer suffisamment pour mettre un peu les autres sous pression. Quand la grâce de Dieu nous rassasie, le regard sur soi-même et sur les autres change. C'est un regard d'action de grâce, de reconnaissance. Et ça nourrit constamment. Je n'ai plus de moments de... Vous savez, il y a des moments de vide dans la vie chrétienne. À part les moments forts avec Dieu, le reste du temps, parfois, dans les activités du quotidien, quelque chose se tarit, ça devient un peu lourd. Mais non, ces moments-là se réduisent de plus en plus. Et la grâce de Dieu nous nourrit, instant après instant, seconde après seconde. Je suis rassasié. Je n'ai besoin de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Cette grâce de Dieu, il faut que ça touche nos vies, il faut que ça change. Ça change nos cœurs, ça change notre regard envers le monde. L'apostolat de l'Église, parce que j'ai pas du tout dévié dans ma trajectoire, l'apostolat de l'Église, c'est d'être capable d'incarner cette grâce de Dieu pour la société. Il faut qu'on change de regard, de langage, d'attitude. Et si vous déclinez ça au quotidien, dans vos engagements professionnels, dans votre façon de prier pour le monde, d'intercéder pour la nation, de voir le gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de grâce, hein, des fois, sur les réseaux sociaux, envers le gouvernement. Et sous quel prétexte? Ben oui, la Bible dit que. Ah, tiens, ça rappelle quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut être laxiste, pas qu'il ne faut pas discerner les enjeux et le mal, mais notre état d'esprit doit changer. Pourquoi Jésus, qui était l'homme le plus saint que la terre ait jamais porté, l'image, le reflet de Dieu, pourquoi c'est vers lui que couraient tous les gens exclus, rejetés et dits pécheurs par les autres? Pourquoi tous ces gens allaient dans sa présence et fuyaient la présence des religieux? Comment se fait-il que la sainteté qui était sur lui ne repoussait pas les autres? Alors que les pharisiens passaient leur temps à défendre la sainteté de Dieu et à établir des murs toujours plus hauts entre Dieu et le pécheur. La grâce de Dieu ne rejette pas. La grâce de Dieu incarnée dans l'Église ne peut pas rejeter. Que faisons-nous avec ceux qui sont différents, qui ont des orientations sexuelles différentes, qui ont des comportements sociaux différents, qui sont tellement éloignés de l'image que l'on se fait? Comment est-ce qu'on attire? Est-ce qu'on est attractif? Ou est-ce qu'on est repoussoir? J'ai dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui sont humilié, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, l'Évangile et l'Église, c'est l'inverse. Je parle en général, sans être... C'est pas un jugement non plus, mais c'est quand même un constat. Le regard du monde par rapport à l'Église, c'est pas relever les humiliés, c'est enfoncer les humiliés. C'est écorcher les cœurs brisés. C'est rajouter de l'enfermement à ceux qui sont déjà esclaves. C'est comme ça que sonne le christianisme dans le cœur de notre génération. Il faut qu'on renverse la vapeur, que Dieu nous bouleverse, nous amène à la compassion, nous amène dans un nouveau langage, un nouveau regard, de nouvelles relations avec le monde qui nous entoure pour que, enfin, nos vies, je ne dis pas que ce n'est pas le cas déjà, mais qu'on a besoin de progresser encore. Que tous les murs que l'on construit envers le monde soient tombent, soient détruits. La séparation du monde, ce n'est pas l'exclusion des autres, ce n'est pas le rejet de ceux qui sont pécheurs, c'est simplement la grâce de Dieu qui nous rend capables de ne pas nous souiller, mais qui nous rend proches et qui nous connecte avec le monde pour être là où nous travaillons, là où nous vivons, pour être des témoins de l'amour de Dieu. Amen. Nous avons reçu la grâce. Seigneur, permets-nous de recevoir la grâce. Partout où ça coince, partout où ça bloque. Ce matin, peut-être certains se disent, oh non, ça va trop loin. Oh là là, oh là, pop, c'est pas comme ça, moi, que je vois les... Mais écoutez, c'est peut-être justement le signe qu'il faut que ça s'élargisse. Quelque chose... Cette révélation de la grâce va faire nous une église pertinente pour le monde. Pas une église déconnectée, pas une église ailleurs, mais pertinente, impliquée, engagée. On parle du royaume de Dieu, engagement dans la société, mais comment? Par quelle motivation? Ce n'est pas parce qu'on fait des œuvres pour la société, pour le bien de ceux qui nous entourent, qu'on est dans le royaume de Dieu. Ce qui fait de nous une église apostolique et qui est au service de la société, c'est que tout ce que nous faisons, y compris nos œuvres, et surtout nos œuvres, évidemment, alors pas les bonnes œuvres, mais les œuvres pour servir, pour toucher l'humanité, sont motivées par la grâce de Dieu. Pas par le devoir, pas par... Vous savez, il y a des fois, je trouve que dans nos églises, parfois, c'est un peu ambigu. On veut servir, on veut mettre en place des actions sociales, et derrière, il y a l'idée que, au moins, on ne sera pas pris pour une secte. Au moins, on va avoir la faveur des autorités. Ou alors, c'est la culpabilité. Il faut donner parce que c'est pas bien de vivre dans l'aisance et devoir laisser les autres... Tout ça, ça n'est pas des motivations dignes du royaume de Dieu. Tout ce qui doit nous amener à servir le monde, c'est la compassion. Et ce qui nous manque le plus, c'est cette compassion, bien souvent. Et je crois que cette compassion, quand elle va descendre dans nos cœurs, elle va initier, générer des œuvres qu'on n'imagine pas. RNC, c'est le rassemblement d'églises et d'œuvres. On est très heureux de tout ce qui se passe. Mais ça ne me satisfait pas du tout. Enfin, je ne m'en contente pas. Je suis heureux, reconnaissant, mais je ne m'en contente pas. Parce que je crois qu'il y a une créativité nouvelle à découvrir. Que la grâce de Dieu va nous faire découvrir de nouvelles voies pour incarner l'amour de Dieu. Et qu'on n'a pas fini. Mais pour ça, il faudra que la compassion agisse dans nos cœurs, beaucoup plus grandement. Pour que la grâce de Dieu puisse couler dans le monde qui nous entoure. Dans notre église à Auch, on a été, dans les années 90, initiateur dans la ville d'une multiplicité d'engagements sociaux. Sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire, sur le plan de l'accompagnement des malades, de l'accompagnement des personnes âgées et tellement d'autres choses. On était à la pointe. Et puis tout d'un coup, ces choses ont commencé à diminuer. Je me suis dit, quand même, pour nous qui voulons être une église du royaume de Dieu. Et petit à petit, je sentais de plus en plus de malaise avec toute cette multiplicité d'œuvres qui pourtant faisait notre fierté jusque-là. Et ouais, ça c'est le royaume de Dieu. Voilà, on a compris. Puis quelque chose commençait à dire, non, ça sonne faux, c'est pas juste. On est arrivé à tout fermer, tout arrêter. Enfin, ça a continué. J'ai été président pendant 15 ans d'un accueil pour SDF, accueil jour et nuit. Et ainsi de suite. Et je me suis désengagé de tout cela. Et tout ça a continué avec d'autres. Mais nous avons arrêté, y compris l'aide alimentaire. C'est impensable pour une église d'arrêter un tel engagement envers les pauvres. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrête? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Où est notre vision? Où est notre... Et quelque chose me dit, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a arrêté. Et quelques temps après, la lumière s'est faite. Je me suis rendu compte qu'on n'était plus, dans la compassion du départ, dans l'amour gratuit pour ceux qui étaient dans le besoin. On était dans le devoir. Les gens commençaient à râler. Oh ouais, mais c'est cette population, elle est difficile. Oh, puis moi, je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne suis pas libre, je ne suis pas disponible. Et ça devenait un fardeau pour tout le monde. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on a commencé. L'absence de grâce et de compassion atarie notre engagement social. J'en fais l'aveu. Mais je préfère avoir reconnu cela et avoir dit, bon, on arrête. Parce qu'on va pas continuer pour continuer. On arrête et on va laisser Dieu travailler nos cœurs. Et je prie pour que la compassion revienne, pour que la grâce de Dieu revienne dans nos cœurs et que de nouvelles voies nous soient données, révélées pour servir ceux qui sont dans le besoin et pour relever ceux qui sont humiliés. L'apostolat, c'est ça. Tout le reste, c'est les conséquences. L'implantation d'église, l'autorité spirituelle, tout cela, ce sont des conséquences de la révélation de la grâce, incarnation de Dieu. Et vous savez que cette révélation-là, je termine sur ce point là-dessus, c'est pas quelque chose de banal, c'est ce qui a mis Paul, Jésus d'abord, puis les apôtres, et puis l'Église, en confrontation directe avec les systèmes religieux. La révélation de la grâce nous amène dans un combat spirituel qu'on n'imagine pas. Parfois, on pense que le combat spirituel, c'est les grandes déclarations et proclamations, c'est aussi ça. Mais quand on incarne la grâce de Dieu, quand on la reçoit, quand on l'incarne, on est en confrontation directe avec le royaume des ténèbres qui ne supporte pas la grâce de Dieu. Et c'est deux mondes qui s'affrontent, le monde religieux, croyant ou pas, hein, parce que l'esprit religieux se cache aussi derrière l'athéisme. Les gouvernements les plus athées et les plus totalitaires sont les plus religieux. Et ils substituent à l'adoration rendue à Dieu, l'adoration rendue à l'État, à l'idéologie et au président ou au roi. Culte de l'empereur, culte de la personnalité. Dans l'esprit religieux, il est là, quelle que soit la sphère dans laquelle on est. Et quand la grâce de Dieu vient, le monde, au sens de l'esprit religieux, les principautés et les dominations se lèvent contre. Parce que là, le diable sait qu'il perd son pouvoir. Donc la grâce, ce n'est pas du tout un truc à l'eau de rose. Hein. Ce n'est pas de la guimauve. Hein. C'est radical. Ça nous change la vie, ça nous motive, ça nous sanctifie et ça nous met en opposition directe avec le monde des ténèbres. Et il faut que le monde sache, il faut que ceux qui sont perdus sachent qui est Dieu et qu'ils sortent de l'esclavage, de l'esprit tyrannique du diable et de ce monde pour découvrir la vraie liberté, la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Jésus n'a pas eu d'autres ennemis que les gens religieux. Ce n'est pas une anecdote, ce n'est pas banal, ce n'est pas secondaire, ce n'est pas un épiphénomène, c'est la confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et nous, on ne veut pas être un pied dans l'un, un pied dans l'autre. On va dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est la culture de la grâce. La grâce, ce n'est pas ce que j'expérimente pour moi seulement, c'est ce qui oriente toute ma vie et qui devient une culture dans les relations, dans le regard avec le monde, dans ma façon d'exercer mon métier. Vous savez qu'aujourd'hui, on découvre que le management de la bienveillance est finalement un type de management qui est beaucoup plus rentable économiquement que les managements habituels, traditionnels. C'est quand même incroyable, ça. La bienveillance, c'est la grâce. Hein, c'est le même mot en hébreu. D'ailleurs, il n'y a pas un seul mot d'ailleurs pour traduire le mot chesed, qui est d'une richesse incroyable. On traduit grâce, compassion, bienveillance, c'est ça. Le monde a besoin de découvrir la bienveillance de Dieu. Et si tu as une responsabilité, une autorité dans l'Église, dans la société, dans une association, eh bien apprends le management de la bienveillance, incarne la bienveillance de Dieu dans ton comportement, que ça devienne une culture et que Dieu nous conduise à avancer. Et je termine. C'était mon premier point. Nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Est-ce qu'on est d'accord que la vision de l'apostolat, ce n'est pas la super autorité de tel ou tel ministère, apôtre des nations, qui exerce son autorité sur l'Église, corps de Christ, pour qu'elle marche comme une armée? C'est la révélation de la grâce qui fait que même Paul, dans son autorité d'apôtre, s'est jamais prévalu de son rôle, de son ministère, de son mandat. Mais il a appelé, et il a suscité la soumission, l'obéissance par la compassion et par le service. Et en définissant l'autorité qu'il recevait, qu'il exerçait comme une autorité pour construire et non pas une autorité pour détruire. Donc redécouvrons un type de ministère, un type d'apostolat, un type d'engagement dans la société qui soit irrigué, alimenté par la grâce de Dieu. Et là, nous serons vraiment dans le mandat apostolique. Et là, les églises vont s'implanter. Là, le niveau de gouvernement va grandir. Parce que quand la grâce de Dieu est là, c'est l'amour de Dieu qui est présent. Il n'y a plus de place pour l'ennemi, pour les principautés, les dominations. Les démons partent devant l'expression de la grâce de Dieu. Parfois, il faut mettre un peu de voix pour qu'ils partent, mais fondamentalement, c'est la révélation de l'amour de Dieu qui fait partir les ténèbres. Parce que c'est quand Christ est mort à la croix, en incarnant l'amour de Dieu pour nos vies, pour l'humanité, en se laissant dépouiller, qu'il a réellement vaincu les ténèbres. À la croix, dans l'abaissement extrême, dans la révélation de l'amour de Dieu, de la passion de Dieu pour les hommes, qui l'a amené à se dépouiller jusque dans l'injustice la plus criante, la plus terrible, c'est là que les principautés, les dominations ont été livrées en spectacle. Leur haine, leur tyrannie, leur méchanceté a été révélée. Et Christ a vaincu au moment où il dit « Tout est accompli ». La résurrection va suivre, mais la victoire, elle a déjà eu lieu. Dans l'abaissement extrême, la vraie autorité, elle est là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, pas en prétendant cette grande dignité, mais en donnant sa vie. Et quand nous donnons notre vie, alors l'amour de Dieu passe et les ténèbres s'enfuient. Et la véritable dimension de l'apostolat se manifeste. En vue, et je termine vraiment en deux phrases, deux minutes, c'est nous avons reçu la grâce et l'apostolat afin de susciter pour son nom l'obéissance de la foi dans les nations. Ni la grâce, ni l'apostolat ne sont une fin en soi. Simplement l'équipement, le mandat apostolique avec la culture de la grâce, c'est l'équipement que Dieu nous donne pour pouvoir aller dans les nations, servir et là être une source de bénédiction pour les nations. Pas pour l'individu seulement, mais pour toutes les nations, toutes les structures, toutes les sphères qui composent la vie d'une nation. Ça veut dire que ça engage nos vies dans la vie professionnelle, dans la vie associative, dans le combat politique, dans la vie économique, dans l'Église. Toutes ces dimensions doivent être touchées, j'allais dire contaminées, mais c'est pas juste, doivent être influencées, pénétrées, imprégnées de l'Église et de la grâce pour que là, le royaume de Dieu puisse venir. Notre mission, la vision du royaume de Dieu, c'est la proclamation, c'est la vision de RNC. Proclamer le royaume de Dieu. Et ça, on est fort, les évangéliques, pour proclamer. Ça, proclamer, ça, on sait faire. Hein. Mais ce n'est pas ça. Proclamer et incarner. Il faut qu'on prenne notre environnement, je vais dire en étau, en tenaille, non pas dans le mauvais sens du terme. Il y a la proclamation directe qui annonce le message et il y a l'incarnation par les valeurs qui imprègnent l'environnement. Et même si on ne parle pas, même si on ne déclare pas, même si on n'est pas dans la parole, on est dans les actes et on crée une atmosphère par le pardon, la justice, la joie, la paix, l'amour, qui appelle la présence de Dieu. Ça ne se voit pas apparemment, ça ne brille pas, il n'y a peut-être pas de spectaculaire, il n'y a peut-être pas de surnaturel apparemment, mais il y a la présence de Dieu. Et c'est là que, ainsi, ceux qui nous entourent sont au bénéfice du royaume de Dieu et peuvent s'y ouvrir, à un moment donné, peuvent l'accepter, le recevoir, ou peuvent en bénéficier, à tout le moins, parce que eh bien, nous sommes dans notre dimension de service et de militance pour le salut de notre humanité. Amen. Je m'arrête là. Alors, vous croyez ça? Vous croyez que nous avons reçu la grâce et l'apostolat? On va prier pour dire, Seigneur, nous voulons recevoir. Nous voulons recevoir la grâce. On n'a pas tout, on a vraiment loin d'avoir tout compris, tout découvrir. On a besoin que quelque chose se passe pour que ça s'ouvre. Ce matin, quelqu'un aspire à recevoir la grâce de Dieu pour la première fois. Il dit, mais comment faire? Attends, rien, justement. Mais Dieu va faire. Dieu va ouvrir. Dieu va ouvrir. Dieu va ouvrir. Des révélations, des ouvertures, tout ce qui est bloqué. Je vais prendre position dans la prière avec vous pour que tout ce qui est en nous peut se bloquer, peut résister, peut rester comme ça, hermétique. Eh oui, ne vous étonnez pas, c'est comme ça, c'est notre nature. On est tous hermétiques. Mais quand Dieu vient et qu'il ouvre nos cœurs, quand c'est lui qui le fait, alors là, son fleuve peut venir et amener la vie, amener la liberté. Nous sommes devant toi, Seigneur, et ta grâce nous émerveille, elle nous bouleverse, elle nous jette à tes pieds. Nous crions à toi, Seigneur, pour que tu nous rendes capables de recevoir ta grâce dans la dimension dans laquelle tu veux nous la donner. Tu connais pour chacun les combats les domaines de tension, les domaines dans lesquels ta grâce doit agir. Et ce matin, je prie, Seigneur, pour que ton esprit soit à l'œuvre et que l'ennemi n'ait aucun droit, aucun pouvoir pour freiner, pour bloquer la réception de ta grâce. Que tout ce qui est de l'ordre de l'esprit religieux, de l'ordre de la rébellion, de l'hermétisme à ta présence, des ténèbres, soit soumis à ton autorité maintenant. Que ce qui était fermé s'ouvre, que les portes, les cœurs, ce qui était fermé s'ouvre, que les dimensions qui étaient interdites à ta grâce s'ouvrent, que ta grâce coule comme un fleuve maintenant, au plus profond de nos vies, pour toucher nos cœurs, pour guérir, dans les replis de nos consciences, de nos inconscients, de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits, Seigneur, viens, fais pénétrer ta vie, ta grâce, ta présence. Nous sommes à tes pieds, Seigneur, et nous crions, oui, nous voulons recevoir ta grâce. Je veux recevoir ta grâce. Pour être capable de la communiquer, de la laisser s'exprimer, de la laisser couler, pour que le fleuve de ta grâce inonde le travail où je suis, le quartier où je vis, la ville où je réside, le pays dans lequel nous te servons. Que ta grâce abonde, Seigneur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu as un cœur pour notre nation. Cette nation est destinée à ton royaume. Tu as donné ton Fils pour racheter cette nation, Seigneur, et toutes les nations représentées ici. C'est pourquoi nous crions, Seigneur, fais grâce, fais grâce, fais grâce, fais grâce, et conduis-nous dans tes voies, au nom de Jésus. Amen. Restons dans sa présence et laissons couler son amour, son appréciation, son affection pour chacun. Les barrières que nous sommes forgées, que les prisons dans lesquelles nous sommes enfermés s'ouvrent maintenant. Que l'amour de Dieu vienne pour irriguer, libérer et guérir au nom de Jésus. Le Père dit, je t'aime. Point. Je ne t'aime pas si, je ne t'aime pas quand, je ne t'aime pas dans la mesure où, je t'aime. Cet amour soit répandu dans nos cœurs par ton esprit, Seigneur, pendant que nous communions avec toi. Au nom de Jésus. Libère, guéris, sanctifie, transforme. Repositionne-nous, Seigneur. Et envoie-nous avec ce mandat apostolique. Là,